Merci, bonsoir à tous. Donc voilà, c'est notre deuxième séance et ce soir c'est moi qui vais faire l'intervention. Donc je ne m'étais peut-être pas présentée précisément la semaine dernière, mais je suis Annick Lacroix et peut-être en deux mots, ce que je peux dire c'est que je suis agrégée d'histoire et que je fais actuellement un doctorat sur l'Algérie coloniale et je travaille plus précisément sur une administration dans l'Algérie coloniale qui est celle de la poste, du téléphone et du télégraphe, sous la direction de Raphaël Branche, que vous verrez la semaine prochaine, puisqu'elle va intervenir. Et voilà, je travaille sur l'Algérie entre 1870 et la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est davantage une sorte d'exploration de la société algérienne entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. On débordera un peu avant, un peu après, selon les exemples que j'ai sous la main, mais grosso modo, c'est de ça qu'on va parler ce soir, avec l'idée que dans le système colonial qu'a décrit Sylvie Tenot la semaine dernière, qui est extrêmement clivé et notamment traversé par un certain nombre de barrières juridiques qui sont ancrées dans le droit, et elle l'a décrit très précisément, il y avait en fait dans cette Algérie coloniale un certain nombre de groupes sociaux qui étaient qui entretenaient des relations plus ou moins fréquentes ou intenses, et c'est ça que je voudrais essayer de décrire avec vous ce soir, en précisant peut-être juste une chose pour rebondir un peu sur ce qu'avait dit monsieur le maire à la fin de la séance dernière, à savoir que en fait l'Algérie n'est pas un système d'apartheid, c'est un système colonial extrêmement inégalitaire, mais c'est pas un système de discrimination institutionnalisé de manière, dans le droit, et il n'y a pas une organisation de la séparation des populations systématique comme en Afrique du Sud par exemple, où les populations noires et blanches, il y avait un certain nombre de lois, d'actes qui faisaient que les populations ne pouvaient pas vivre dans les mêmes quartiers. Il y avait des réserves pour les Noirs dans le milieu rural, etc., etc. C'est pas ça qu'on a en Algérie. Alors, ça n'empêche pas que c'est un système très inégalitaire, etc. Mais c'est le fait que ce soit pas un système d'apartheid fait qu'il y a un certain nombre de points de contact et de rencontres qui sont possibles par ailleurs. Et vous allez voir, c'est tout l'objet de cette conférence. C'est pas du tout pour euphémiser les rapports sociaux et dans la violence d'un système colonial qui était extrêmement violent, mais c'est quand même un système qui rendait possible ces contacts. Alors du coup, dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer tout simplement, c'est que un certain nombre d'historiens ont travaillé sur la colonisation de l'Algérie de points de vue extrêmement différents. C'est un champ historique, extrêmement clivé, extrêmement contrasté, puisque vous avez des historiens qui font date aujourd'hui, des travaux historiques qui font date, notamment ceux de Charles-Robert Ageron et de Charles-André Julien, qui sont des travaux extrêmement importants, et ce sont deux historiens, par exemple, qui ont pris le parti qui se sont battus, en tout cas avec, peut-être pas avec des armes, mais avec des mots, pour l'indépendance de l'Algérie. Et parallèlement à ça, il y a également des nationalistes algériens, par exemple, qui se sont engagés pour l'indépendance de l'Algérie et qui ont aussi écrit sur cette histoire. Donc on a à disposition des travaux extrêmement différents, des points de vue, c'est pas que des points de vue, mais c'est des approches en tout cas différentes. Par exemple, je pensais à Mohamed Harbi, qui a lui été un militant du FLN et qui a écrit un certain nombre de travaux sur l'Algérie. Et troisième, j'allais dire, je ne sais pas si c'est trois, mais enfin, autre approche, celle par exemple d'historiens rapatriés d'Algérie qui aussi entendent faire peser leur vision de ce qui s'est passé dans l'Algérie coloniale. J'y reviendrai un peu plus précisément. Du coup, c'est vrai qu'on a des approches assez différentes qui rendent complexe un travail et l'établissement d'un diagnostic sur la situation de l'Algérie coloniale. En tout cas, ce qu'on peut dire en deux mots, c'est qu'il y a une écrasante domination de l'histoire politique, c'est-à-dire un point de vue, une approche politique de cette histoire de l'Algérie coloniale, qui a laissé pendant assez longtemps peu de place pour des analyses économique et sociale de la situation. Enfin, j'exagère un peu parce qu'il y a eu des travaux, mais qui sont aujourd'hui assez datés. Et depuis, d'une part, l'ouverture des archives dans les années 90 de la guerre d'indépendance, et aussi parce que cette guerre a été extrêmement violente, on a eu depuis beaucoup de travaux focalisés d'une part sur la guerre d'indépendance et d'autre part sur une analyse extrêmement politique de la situation. Donc l'idée ici aujourd'hui, c'est de faire un pas de côté et de revenir d'une part en amont de cette guerre d'indépendance, donc au cœur de la période coloniale, et de prendre et de choisir une approche plus en termes donc d'analyse des groupes sociaux qui cohabitaient dans cette Algérie. Donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une remarque méthodologique. Si vous étiez, vous, des historiens du social, de la société algérienne, ce qu'il faut se demander en premier lieu, c'est comment est-ce qu'on peut travailler, à partir de quels matériaux, de quelles archives, on va pouvoir travailler sur ces questions-là. Comme vous pouvez l'imaginer, en fait, il y a un certain nombre d'archives qui existent sur l'Algérie et qui sont des archives de l'administration française. Et c'est des archives assez techniques, extrêmement volumineuses sur toute la période, mais qui vont donner un point de vue assez surplombant mais dans lesquelles on peut trouver des choses, y compris pour étudier les groupes sociaux. Autre type de source, ce serait par exemple la presse. Le problème de la presse, c'est que la majorité de la presse pendant la période coloniale est une presse européenne qui se préoccupe essentiellement de la population européenne. Et du coup, il va falloir trouver des sources, des archives alternatives pour essayer de multiplier les points de vue et saisir aussi des personnes qui n'ont pas eux-mêmes laissé de traces, ou en tout cas rarement, laissé de traces écrites. Donc c'est un peu ce que Martel, par exemple, une école qui s'appelle les Subaltern Studies et qui depuis une trentaine d'années, pas forcément dans le cas de l'Algérie coloniale, mais sur tous les types de relations coloniales et notamment de domination, qui propose, lorsqu'on a des relations comme ça très inégalitaires et qu'on veut étudier une population entre guillemets dominée, de travailler à partir d'objets qu'ont pu laisser ces groupes sociaux, de photographies, d'entretiens oraux lorsque la période est suffisamment récente et qu'il reste des témoins, ou également travailler sur les contes, les chansons populaires, etc., etc. Donc c'est juste pour vous mettre pointer du doigt la difficulté quand même aussi pour les historiens de faire une histoire qui a déjà peut-être plus de 100 ans et sur des populations qui parfois ne laissent que très peu de traces. Et donc on est obligé un peu de faire feu de tout bois. Mais j'insiste pas sur cette question parce que vous aurez au printemps un atelier de l'historien dans l'université populaire qui sans doute vous permettra de réfléchir plus précisément à ce type de questions en termes d'archives. Mais voilà ce qu'on peut dire. Et puis si vous avez des questions, on pourra revenir sur ce point-là. Alors, dans cette intervention va en fait être divisée simplement en deux parties, avec dans un premier temps une réflexion, je vais essayer d'esquisser une sorte de stratification sociale de l'Algérie coloniale, donc quels sont les différents groupes sociaux qu'on peut distinguer, identifier, en essayant de complexifier une approche qui serait uniquement bipolaire, avec d'un côté les Européens et de l'autre les Algériens, mais de voir que chacun de ces deux groupes sont extrêmement divers et hiérarchisés en leur sein, selon d'autres critères que le simple critère entre guillemets ethnico-religieux. Il y a plein d'autres choses qui font je vais y revenir. Et dans un deuxième temps, après avoir beaucoup réfléchi en termes de clivage et de séparation, et sans essayer d'euphémiser du tout ce qui est la relation coloniale, ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est est-ce que il y avait quand même des points de contact, de rencontres entre les groupes sociaux, et du coup, quelle était la nature de ces rencontres à l'école, au café, sur le lieu de travail ou dans l'intimité des familles. On va essayer donc de décrire cette société coloniale au-delà du simple clivage européen et algérien. Alors si on s'appuie tout d'abord sur le recensement des populations qui sont présentes en Algérie en 1886, c'est les catégories de l'administration coloniale que j'ai reprises ici. Celle-ci recense plus de 3 millions d'indigènes musulmans en 1886, 50 000 juifs qui, comme vous l'a dit Sylvie Thénault la semaine dernière, depuis 1870 sont citoyens français par le décret Crémieux. un peu plus de 200 000 Français venus de métropole, à peu près autant d'Européens étrangers, c'est-à-dire des Espagnols, des Italiens, mais aussi des Maltais, des Allemands et un certain nombre de nationalités différentes, et également une vingtaine de milliers de Tunisiens et de Marocains. Alors, décrire la société coloniale, c'est pas si simple. Ce que je voulais peut-être vous montrer avant de démarrer, c'est cette caricature de Salomon Assous, qui est en fait un peintre et un caricaturiste qui a vécu en Algérie entre 1850 et 1919, je trouve que cette caricature en dit long sur les stéréotypes coloniaux et aussi sur la focalisation sur des distinctions basées sur des critères à la fois géographiques, ethniques et aussi fonctionnelle, c'est-à-dire que vous avez là une sorte de vision schématisée qui est extrêmement réductrice puisque chaque personnage est censé incarner un groupe entier, si vous voulez, mais qui nous permet, si vous voulez, on va le prendre, de commencer à rentrer dans cette société en voyant qu'on a des représentants de la population colonisée avec le Haïd, qui est ce qu'on dit le Kaïd, si vous voulez, je le prononce mal, mais c'est le représentant, le chef de l'administration, enfin dans l'administration coloniale française, le chef de la tribu qui est nommé par l'administration coloniale. Vous avez une mauresque en tenue de ville et puis une mauresque plutôt en tenue d'intérieur, et le petit Yaouled, c'est le sireur, le petit enfant sireur arabe. Alors tous ces dénominations qui sont écrites dessous, hein, c'est pas les miennes, c'est celles du caricaturiste, posent problème. Hein, je vais y revenir tout de suite. C'est la façon dont on nomme le groupe est tout à fait problématique et elle est en même temps très importante. Mais on voit ici déjà une société algérienne qui n'est pas uniquement duale ou divisée en deux groupes monolithiques un peu figés, mais qui déjà se complexifie. Mais c'est pas tout à fait satisfaisant du point de vue d'un historien du social. Ça se focalise beaucoup sur des critères ethnico-religieux, alors même qu'il y a plein d'autres façons de considérer une société. On peut penser, par exemple, il y a des clivages en termes de genre, les hommes et les femmes, le fait de vivre en milieu rural ou en milieu urbain, les clivages en termes d'âge ou génération, etc., etc. Donc c'est un peu ça que je voudrais faire maintenant, c'est aller un peu plus loin que cette représentation extrêmement stéréotypée et qui surfe, j'allais dire, sur les lieux communs de l'époque. D'autant que ce que je voulais dire là, c'est le fait qu'il y a un problème dans l'utilisation des catégories qu'on mobilise. C'est-à-dire que, comment par exemple, moi je dis depuis le début, les Européens et les Algériens. C'est un choix que j'ai fait et que j'assume, mais il faut savoir que les Européens, par exemple, pour le coup, c'était le terme qu'on utilisait en partie pendant la période coloniale, mais il y avait d'autres termes concurrents qui ont essayé de s'imposer pendant toute la période. À la fin de la période coloniale, dans les années 1962, c'est surtout le terme pied noir qui a été utilisé, mais aussi le terme utilisé par l'administration qui était celui de rapatrié, par exemple. Le terme pied noir, par exemple, existait un petit peu de manière épisodique dans la période coloniale, mais c'est vraiment une construction identitaire postérieure à 1962, d'un groupe qui, au moment où il vit une crise et où il est quelque chose d'extrêmement traumatisant, va en fait réutiliser ce terme. Et ce que vous disiez Sylvie Thénault la dernière fois, ça va un petit peu l'homogénéiser a posteriori, si vous voulez. Autre terme qui était utilisé par les Européens, mais dans une période plus ancienne, autour de 1900, les Européens d'Algérie s'appelaient ou entendaient être appelés les Algériens, ce qui est très important parce que symboliquement c'est très fort, si vous voulez, de prendre ce terme en disant les Algériens, c'est nous, Européens, nés en Algérie ou venus nous installer pour mettre en valeur ce pays. En fait, les Européens d'Algérie à ce moment-là voulaient se distinguer, si vous voulez, des Français de métropole qui venaient simplement pour quelques mois ou quelques années occuper par exemple un emploi public et qui étaient considérés comme des sortes d'oiseaux de passage qui allaient de toute façon repartir. Et donc pour se distinguer de cela, les Européens d'Algérie ont un temps repris le terme d'Algérien, ce qui finalement ne s'est pas imposé, mais c'est assez intéressant de voir que quand même les termes qui sont utilisés ont des, enfin, y a une sorte de les groupes se saisissent de certains termes et tentent de les promouvoir à des fins qui ne sont pas du tout neutres. De même que ce n'est pas évident pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on doit reprendre les termes fabriqués par l'administration coloniale. L'administration coloniale désignait les Algériens de diverses manières, mais elle utilisait notamment les termes de sujet, d'indigène, de français musulman, et notamment avait tendance à assigner ce groupe des Algériens à une identité souvent religieuse, mais qui débordait, si vous voulez, cette question-là. Et c'est des termes qui sont extrêmement datés, et en général, quand on est à l'écrit, on utilise des guillemets, et quand on est à l'oral, on explique pourquoi enfin, les choix qu'on fait. Alors, je m'étends pas plus sur cette question parce que c'est assez vaste et c'est peut-être pas l'objet non plus, mais je trouvais que c'était intéressant de faire ce petit détour. En fait, ce qui fonde le terreau d'un certain nombre d'inégalités économiques et sociales qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est en fait tout ce qu'a expliqué Sylvie Thénault la semaine dernière, c'est-à-dire en amont un certain nombre de clivages qui reposent sur du juridique, qui sont inscrits dans le droit. Donc je ne reviens pas là-dessus, puisque vous étiez en majorité là la semaine dernière, mais c'est quand même aussi ça qui vient en amont, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des distinctions de statuts juridiques, des régimes de droit différents, le régime de l'indigénat par exemple, ou bien des fiscalités différentes qui s'appliquent aux groupes et qui vont avoir des conséquences économiques et sociales réelles. Peut-être juste pour revenir sur un seul point, puisqu'elle en avait parlé la semaine dernière de ces fameuses cartes qui sont en fait dans l'ouvrage de Kamel Kateb, dont j'ai donné la référence dans la bibliographie qui est sur le site et puis qui était dans le petit document de la semaine dernière. Mais vous avez en fait ce démographe Kamel Kateb qui a travaillé sur les groupes sociaux et la démographie de l'Algérie coloniale et qui a repris ces cartes qui sont en fait des cartes du gouvernement général en 1920. 21 même, et qui décrivent la répartition des populations européennes et, entre guillemets, indigènes à cette date. Donc déjà, c'est assez intéressant, je trouve, puisqu'on voit que parler de rencontres coloniales, c'est assez limite. Enfin, il y a toute une partie du territoire pour lequel cette question-là ne se pose même pas, puisqu'en fait, la colonisation européenne est quelque chose de pas du tout homogène ni continue, c'est au contraire un phénomène extrêmement fragmenté et ça bat en brèche, je trouve, l'idée, enfin, vous voyez ces atlas de la Troisième République, les cartes vertes et roses, qui donnent cette idée que l'empire colonial français est quelque chose de continu. Ben là, on a au contraire une réalité tout à fait différente. La présence européenne, y compris dans le nord de l'Algérie, qui était la colonie de peuplement par excellence, est extrêmement fragmentée. C'est des petites taches qui se concentre uniquement sur les grands centres urbains du nord de l'Algérie et sur les centres ruraux de peuplement européen, mais il y en a plusieurs centaines, mais c'est pas un phénomène continu. Ce qui fait le lien entre ces tâches, c'est des réseaux ferroviaires, télégraphiques, des routes, mais c'est quand même extrêmement fragmenté ou hétérogène. Et c'est renforcé par le fait, je vais essayer de pas être trop longue, mais c'est renforcé par une organisation du territoire qui fait qu'en fait la masse des populations européennes et algériennes ne se rencontre pas, en tout cas en milieu rural, qui est, il me semble que Sylvie Thénault l'a à peine évoqué, la division entre communes de plein exercice et communes mixtes. Alors les communes de plein exercice, c'est des communes qui se situent essentiellement au nord de l'Algérie, à peu près là où il y a les tâches de population européenne, et qui fonctionnent sur le même modèle que les communes métropolitaines. À part qu'elles sont un peu plus grandes, vous avez un système d'élection d'un maire, enfin d'abord de nomination, puis après à la loi des élections des maires. Les maires sont élus aussi en Algérie, et ça fonctionne à peu près sur le même modèle. En revanche, les communes mixtes, c'est des étendues immenses qui font en général la taille d'un département de France métropolitaine et dans lesquelles vivent la majorité des Européens, des Algériens, pardon, et quelques Européens, soit qu'ils soient propriétaires d'une exploitation agricole, soit qu'ils soient fonctionnaires, par exemple. Il y a quelques fonctionnaires dans ces communes-là. Cette distinction date de 1868. Et à partir de là, voilà, vous avez quand même, en 1950, 4/5 de la population algérienne qui vit dans les communes mixtes. Alors que la population européenne, au terme d'un long processus, s'est largement urbanisée et vit essentiellement dans les villes du Nord. Donc, je caricature, hein, il y a forcément aussi des Européens qui ont vécu dans les communes mixtes et qui... Mais voilà, c'est un peu ce que sous-entendait Sylvie Thénault la semaine dernière avec cette idée qu'il y a quand même, spatialement, déjà deux Algéries, deux réalités assez différentes.